Comment abattre Goliath? C'est vrai que ce n'est pas le thème de la prédication de ce matin, mais il est vrai que nous sommes concernés par cette réalité. Nous avons des géants qui dominent nos vies et nous sommes appelés à les soumettre et à les vaincre. Mais comme pour le peuple d'Israël, la grande préoccupation du peuple d'Israël était de s'assurer que l'Éternel était avec eux. Si nous voulons vaincre, nous devons nous assurer que Dieu est avec nous, que sa faveur nous accompagne et que sa bonne main repose sur nous. C'est la préoccupation du chrétien. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? J'introduirai la prédication de ce matin par le récit suivant, c'est tout à fait authentique et vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Je la lis. On raconte qu'un homme s'en allait mourir. C'était un pasteur qui était sur son lit de mort. Et un de ses amis, devenu son détracteur, ça arrive, même dans l'église, vint auprès de lui, tourmenté dans sa conscience. Cet homme qui s'approche de ce serviteur de Dieu, qui est dans ses derniers instants, se met à implorer son pardon pour les calomnies et les insinuations malveillantes qu'il avait colportées sur son compte. Il les regrettait profondément, amèrement. Il était sous une puissante conviction de péché. Et il disait, je ferai n'importe quoi pour réparer le mal accompli. Je te pardonne volontiers, lui dit le moribond. Et puisque tu voudrais réparer, fais-moi, je te prie, un dernier plaisir. N'importe quoi, répéta l'autre avec émotion. Eh bien, prends un sac de plumes. Monte au clocher de l'église et secoue le sac et disperse les plumes à tout vent. Tout de suite, dit l'ami, croyant satisfaire au délire d'un mourant. Au bout de quelques minutes, il revint annoncer que la chose était faite. Ce n'est pas terminé, dit le malade. Va maintenant et retrouve chacune des plumes que tu as vu s'envoler. Et tu sais bien que c'est impossible, protesta l'homme, suspectant sérieusement que la fièvre lui provoquait des divagations. Elles se sont dispersées dans toutes les directions et sont hors de ma portée. Et il est très peu probable que j'en retrouve ne serait-ce qu'une seule. Je le sais, fit le mourant avec le plus grand calme. J'ai seulement voulu te montrer ainsi que malgré mon pardon, le mal déversé par la calomnie et les insinuations perfides ne se répare jamais. Les paroles, comme les plumes, ne sont plus au pouvoir de celui qui les colporte à travers l'espace. Dis à tes fils, d'après ta propre expérience, qu'il n'y a rien dans la vie de plus tragique que l'irréparable. J'aimerais parler ce matin d'un péché particulier qui, depuis toujours, fait florèse dans les églises. Je parlerai essentiellement d'une des maladies de la langue les plus répandues au sein du peuple de Dieu. Vous savez qu'il y a différentes maladies de la langue. Je ne parle pas du cheveu sur la langue, hein, ou du bégaiement, si ce n'était que ça. Je parle de maladies spirituelles. Et la question que je nous pose ce matin, sommes-nous prêts à affronter courageusement ce travers ? que d'églises ont été dévastées, et je parle en connaissance de cause, parce que ce péché particulier n'a jamais été confronté. J'ai été voir dans un livre de citations, j'aime beaucoup les citations, et prenez un dictionnaire de citations et allez voir à la rubrique « langue ». Dans toutes les cultures et à toutes les époques, ce qu'on dit au sujet de la langue. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a d'abondantes citations en rapport avec le mauvais usage de la langue, qu'avec le bon usage de la langue, ce qui est révélateur. Tous les sages, à toutes les époques, ceux qui ont réfléchi simplement et qui ont expérimenté dans leur vie les dégâts d'une langue indisciplinée et pervertie, nous enseignent et nous avertissent. Ce ne sont pas des citations de la Bible, mais elles sont pertinentes. Écoutez bien. Et je suis persuadé que si je vous demandais, ben je vais le faire ce matin, une citation de la langue, mais qui souligne son caractère pernicieux. Qui peut me donner une citation? On vous l'a certainement déjà dit quand vous étiez enfant. Pardon? Tournez sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. J'ai pris quelques citations, entre autres. Un grand auteur dit ceci. Les grands esprits parlent d'idées. Les gens d'intelligence médiocre parlent d'événements et les petits esprits, devinez, parlent des autres. Mais il est connu et il est notoire que les chrétiens ne se livrent pas au commérage, il partage des sujets de prière. Ça vous est déjà arrivé? Je parle parce que j'ai jamais été un menteur. Depuis ma conversion, j'ai été affranchi, je suis incapable de mentir. Je ne supporte pas le mensonge. La calomnie non plus. On fera la différence entre la calomnie et la médisance. Mais je suis un bavard invétéré. Et celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est pas grave si vous avez un tempérament qui vous amène à parler avec abondance. On est ce qu'on est. Je ne serai jamais un taciturne. À une époque, j'aurais bien voulu. J'enviais les personnes qui ne parlaient pas beaucoup parce qu'elles avaient l'air profondes. Et c'est vrai que la Bible dit que même l'insensé, lorsqu'il se tait, passe pour sage. Et moi, j'ai la répartie assez rapide et vive, parfois, demande à mon épouse. Et parfois, j'envie les personnes, vous leur posez une question, et vous voyez, ça met du temps avant de répondre, c'est profond. Mais j'ai jamais su me corriger, et Dieu ne le demande pas non plus. Il demande à ceux qui ont un tempérament loquace, attention, tu as plus de chances de déraper que celui qui parle moins. Mais vous êtes ce que vous êtes. Mais béni soit Dieu pour les bavards, lorsque cette langue est contrôlée par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils peuvent prêcher l'Évangile. Ils peuvent répandre de bonnes nouvelles. Un autre auteur, un serviteur de Dieu de renom, après 60 années de ministère pastoral, dit « Si l'on bannissait la médisance des églises, les chrétiens n'auraient pratiquement plus de sujet de conversation. » Je vous assure que c'est vrai. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, loin s'en faut. Mais j'ai été repris un jour par le Seigneur. Je me retrouve dans un pays de l'Est. Il y a une action de l'Esprit qui se fait. On s'avance dans une maison. C'est une réunion de maison. Une jeune femme se lève avec des paroles prophétiques. Elle va chez un pasteur. Et c'était traduit en roumain. C'était des belles paroles prophétiques. Dieu te bénit, Dieu a des projets pour toi. Deuxième personne, de nouveau. Et moi j'attendais et mon cœur se mettait à battre. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus trop en règle avec Dieu dans bien des domaines de ma vie. J'étais communément, vous le savez, ce qu'on appelle un rétrograde. Mais j'allais quand même, je me dis, bon, j'aimais toujours aller à l'église. Et lorsqu'elle vient vers moi, à un moment donné, son visage se fige comme une lame de couteau. Je dis, Seigneur. Et je me dis, elle va pointer le doigt sur tel péché, ça c'est certain. Parce que nous, on fait des catégories dans les péchés. Hein. Il y a des péchés graves, gravissimes. Et les faiblesses évangéliques, tolérables. Et elle vient vers moi et me dit, frère, je me dis, le Seigneur va pointer tel péché, parce que ça, c'est grave. Ce que je vois dans l'esprit, je vois du venin qui coule de ta bouche. Et tu dois te repentir. Elle est passée à quelqu'un d'autre. Dieu peut nous reprendre. Et j'aime que Dieu me reprenne. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Dieu m'a souvent repris avec sévérité. À un moment donné, je pensais qu'il ne m'aimait pas. Mais non, c'est au contraire, il m'aimait tellement qu'il ne voulait pas que je me perde. Et le Seigneur me reprenait. Tu dois te repentir. Je ne me livrerai pas à la calomnie. Alors, la différence, on va la faire tout de suite. Qu'est-ce que la calomnie? C'est dire du mal de quelqu'un, mais ce mal étant faux, ce qui est grave. La médisance, c'est dire du mal de quelqu'un dans l'intention de nuire. Parfois, on est obligé de refléter un aspect de la personnalité. On est parfois obligé de dire des choses négatives sur quelqu'un. Mais est-ce que mon intention est de nuire? Un exemple. Excuse-moi ma chérie, mon fils va s'appeler Alexandre, mais ça n'a rien à voir avec lui. Dans la Bible, il est dit, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal, dit Paul à son jeune collaborateur, méfie-toi de lui, car il s'est fortement opposé à mes paroles. Est-ce que c'est de la médisance? Pourtant, Paul, le grand apôtre, manifestement, dans une de ses lettres, souligne un caractère extrêmement négatif. Il dit, cet homme-là est dangereux. Il dit des choses négatives, mais son intention n'est pas de nuire. Son intention est de préserver le peuple de Dieu. Alors parmi les maladies de la langue, il y a différentes sortes de maladies de la langue. Je vais essayer de dire à mon épouse, comme le disait le grand prédicateur Adolphe Monod, il y a la prédication de la croix et il y a la croix de la prédication. C'est lorsque le prédicateur a du mal à trouver un sujet. Et là quand c'est comme ça, j'envie mon épouse, je t'envie, hein. Toi tu vas être là assise et moi je stresse. Et je me dis, mais je vais résumer parce que c'est un sujet tellement dense, un sujet que je vais tout faire pour essayer de concentrer. Hein, tout cela. Mais il y a tellement à dire, je vous assure. Il y a différentes maladies de la langue. Il y a le mensonge. C'est une maladie extrêmement grave et mortelle, ça. Les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si tu pratiques le mensonge, couramment, régulièrement, mets-toi devant Dieu. Ou alors tu as besoin d'une libération, là. Il y a le bavardage intempestif. Il y a les propos excessifs, l'exagération, les ragots, les paroles de malédiction, etc. Mais je me suis concentré sur la maladie particulière qui nous concerne, soyons honnêtes. Je ne parlerai pas de la calomnie. Personne ici ne calomnie quand même. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de dire du mal de quelqu'un alors que ce mal est faux. Mais par contre, la médisance. C'est-à-dire, dire du mal de quelqu'un, refléter les défauts de quelqu'un, dire, souligner les travers de quelqu'un, mais pas du tout dans l'intention d'édifier. Souvent, je le disais ça, c'est pas pour médire, hein. C'est vraiment pas pour médire. Quand on vous dit ça, mettez deux boulkis dans les oreilles, parce que ce qui va venir va vous souiller. Et la parole de Dieu a beaucoup à dire à ce sujet. Dans Proverbe 18-21, Salomon dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les fruits que vous allez manger dépendent de l'usage que vous ferez de la langue. Ce seront des fruits empoisonnés ou des fruits bons qui vous feront du bien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui veut dire que la langue, les paroles sont des réservoirs de puissance. Que de paroles parfois on prononce sur les autres. Dans les rapports parents-enfants, il y a des parents qui maudissent leurs enfants sans même s'en rendre compte. Et s'ils s'en rendent compte, c'est grave. Je parlais avec un pasteur, 70 ans. Et il disait, il était de la région de Charleroi, je ne sais pas si c'est une expression carolo, parce qu'il n'était pas brillant intellectuellement. Son père lui disait, tu ne seras jamais qu'un porteur de caisse. Il paraît que c'est une expression de Charleroi. Nous, on a d'autres expressions à Chimay. Hein, c'est-à-dire, tu ne seras jamais qu'un moins que rien. Il a 70 ans, il a 50 années de ministère, 40 années de ministère, il en souffre encore aujourd'hui. Cette parole s'est fichée dans son cœur. Et toute sa vie, il a lutté avec une image dévalorisante de lui-même. Parents, bénissez vos enfants. Et bénissez, encouragez. Vous pouvez les reprendre, mais bénissez-les. Vous avez le pouvoir de les bénir. Le Père, en tant que souverain sacrificateur, a le pouvoir de prononcer la bénédiction de Dieu sur son enfant qui impactera toute sa vie, pour le positif. Mon enfant n'est pas encore né, mais déjà, non pas d'une manière superstitieuse, mais j'ai déjà prononcé la bénédiction de Dieu sur lui. Et je suis déjà en train de préparer la bénédiction que je prononcerai sur lui lorsqu'il naîtra. Parce que je sais, par expérience, le pouvoir de certaines paroles qui peuvent vous marquer et vous détruire pour toujours. Les Juifs ont une expression pour parler du péché de la médisance et de la calomnie. C'est l'alconara. Et les rabbins nous disent que l'alconara, le péché de la calomnie, de la médisance, fait 3 victimes. Première victime, celui qui s'y adonne. Celui qui dit du mal de l'autre se souille lui-même. Deuxième victime, celui qui la reçoit. Troisième victime, celui qui est visé par la calomnie. Autant le Seigneur nous défend de dire du mal de quelqu'un dans l'intention de nuire, autant il nous exhorte à ne pas accueillir des calomnies dans notre cœur. Si vous accueillez des ragots, vous devenez un receleur de ragots. Si les gens viennent constamment vous colporter des choses dans votre oreille, devinez quoi? Si un vendeur de drogue vient vous voir régulièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes très ouvert et très réceptif. J'ai eu à combattre contre ça. Parce que bien souvent, celui qui... Parfois, on va voir quelle est la source de ce péché. Parfois, c'est simplement un orgueil qui est là, qui nous amène à juger les autres. Ça peut être la jalousie, ça peut être beaucoup de choses. Proverbe 18, verset 8, nous dit que les paroles du rapporteur sont comme des friandises, c'est-à-dire des morceaux de choix. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est quand quelqu'un est mis sous... Quand on parle de quelqu'un, mais que ce quelqu'un... est présenté sous un jour qui ne lui est pas favorable, le tréfonds de la nature humaine marqué par le péché se réjouit. Et vous avez déjà vu, comme ça, il y a un phénomène de... Quand on commence à médire, les gens tendent l'oreille. Incroyable, tu ne devineras jamais. Certains n'ont pas ce problème. C'est vrai. J'ai rencontré des gens, franchement, pour déceler une médisance. Il faut vraiment... c'est magnifique. Mais ces morceaux choisis vont t'empoisonner si tu les accueilles. Il y a 6 choses, Proverbe 6, versets 16 à 19, il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Si je vous demandais de noter sur une feuille de papier 7 choses à l'égard desquelles l'Éternel a de la haine, honnêtement, quel serait le premier péché qui viendrait en tête de liste? Quel serait le deuxième péché qui viendrait en tête de liste? Écoutons ce que Dieu dit. Il y a 6 choses... que est l'Éternel. Je vous laisserai lire ce texte, mais à 3 reprises, du verset 16 au verset 19, à 3 reprises, il y a celui qui répand le sang innocent, etc., à 3 reprises, revient le péché de la langue. Sur les 7 choses en question, 3, presque 50%, concernent le mauvais usage de la langue. Il est question, verset 17, la langue menteuse. Verset 19, le faux témoin qui dit des mensonges. Verset 19b, est celui qui excite des querelles entre frères. Comment le fait-il, à votre avis? Comment on excite des querelles entre frères? En colportant, en disant du mal. Pierre dit, 1 Pierre 3, verset 10 à 12, en effet, celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux. Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux? Ben moi, j'aimerais. Tout n'est pas écrit à l'avance. Certains vous diront, Dieu a déjà déterminé, mais moi je lis dans la parole de Dieu que je peux prolonger les années de ma vie. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si tu veux aimer la vie et vivre des jours heureux, Pierre nous donne le conseil, garde sa langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Tite 3:2, Paul nous dit, il nous exhorte de ne médire de personne, de n'être point querelleur, d'être modéré. Et Jacques 4:11, frères, ne médisez point les uns des autres. Jésus nous dit dans la parabole des terrains, la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu, un semeur sorti pour semer, et il parle de quatre terrains. Il y a le terrain pierreux, le terrain épineux, la bonne terre, et puis un autre terrain qui est peu profond. Il y a également, enfin, ce terrain qui est comme un chemin. C'était très parlant à l'époque parce que le semeur semait à pleine volée dans un champ. Mais il était autorisé de traverser le champ. Et à force de traverser le champ, on damait la terre. Et cette partie du champ qui traversait le champ devenait comme un chemin dur. Et donc lorsque le semeur semait, ben forcément cette semence tombait sur un terrain dur. Et la semence ne pénétrait pas. Les oiseaux du ciel venaient enlever la semence. J'aimerais vous parler de cette expression, marcher sur le cœur de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou bien rendre le cœur de quelqu'un comme un chemin, de sorte qu'il devienne impénétrable à la parole de Dieu. Imaginez, moi je viens d'arriver parmi vous il n'y a pas très longtemps. J'ai un a priori positif à l'égard de notre pasteur. Et c'est vrai, je ne suis pas un flatteur. Je le connaissais déjà avant. J'ai un a priori positif d'un homme de Dieu fondé sur la parole. Je viens avec un a priori positif. Donc quand il prêche, je reçois la parole. Un médisant arrive et me dit du mal de notre pasteur. Il vient marcher sur mon cœur. Régulièrement, il dit des choses négatives sur notre pasteur. Il est en train de marcher sur mon cœur. Quand notre pasteur prêchera la parole, mon cœur ne sera plus réceptif. Parce que cette personne aura piétiné mon cœur et aura rendu mon cœur comme un chemin. Quelle responsabilité et quelle culpabilité pour ceux qui font ainsi. Alors, quelle est la source ? Parce que le Seigneur va toujours à la source. Quelle est la source de tout péché ? Jésus dit en Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ou bien, c'est ce dont le cœur est rempli que la bouche s'exprime. Et dans Proverbes 4, 23, l'auteur nous exhorte, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et le Seigneur appelle les pharisiens à être cohérents à un moment donné et logique. Il dit, en Matthieu 12, versets 33 à 37, ou dites, soyez cohérents, parce qu'il l'accusait de toutes sortes de choses, mais ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. L'arbre représente le cœur. Les fruits, c'est les paroles qui sortent. Et le Seigneur souligne un principe fondamental. Il dit aux pharisiens, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes ? Il est en train de dire, vous ne pouvez pas, en toute sincérité, dire de bonnes choses, en raison de la méchanceté de votre cœur. Donc, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Amen. Je ne veux culpabiliser personne, mais nous sommes ouverts à la conviction de péché quand même. Et moi le premier. Car c'est un combat pour moi, je vous assure. Et quand il m'arrive de remporter la victoire, il y a comme une... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous êtes sur le point de dire quelque chose de négatif. Ça brûle en vous. Et il y a comme un frein qui vous retient dans votre conscience. C'est quoi ce frein ? C'est l'Esprit de Dieu qui te dit, ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. Mais vous passez à travers. Qu'est-ce que vous ressentez après ? Une tristesse intérieure. Vous sentez que... Il y a une lourdeur, une pesanteur. Vous vous êtes souillé et vous avez attristé l'Esprit de Dieu. Par contre, quand vous vous retenez ou quand vous refusez, vous avez le droit de reprendre le médisant en disant « Non, je ne t'écoute pas. » Tu as quelque chose contre quelqu'un et le courage d'aller le trouver. Si ton frère a péché contre toi, va et dis-le à toute l'église.
Amen.
Non. Magnifique.
Amen.
Si ton frère a péché contre toi, va le trouver. Entre toi et lui seul, s'il t'écoute, t'as gagné ton frère. S'il t'écoute pas, alors ok. Le Seigneur ne permet pas, ne nous permet pas de conserver le moindre problème entre nous. Il ne l'autorise pas. Il nous dit que tu dois régler ton problème. Ou tu dois vérifier la source. Tu dois, un jour j'ai un serviteur de Dieu que j'aimais beaucoup, qui a été calomnié gravement. Mais moi, on me disait non c'est vrai, non c'est pas vrai. Et je le respectais beaucoup. Je me dis, pour une fois je vais mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que moi il y a quelque chose maintenant entre ce serviteur de Dieu et moi, je ne suis pas à l'aise, etc. J'ai été le trouver. Avec respect. Frère, on dit ça de vous. Oui, m'a-t-il dit. Franchement, est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, je te le dis devant Dieu, c'est faux. Je dis, ça va, c'est bon. Mais plus tard, il m'a dit, t'en as eu de l'audace quand même de venir me trouver. Mais je dis, mais est-ce que c'est pas ça que dit la parole de Dieu? Si tu as réglé ton problème avec ton frère, tu n'éprouves plus le besoin de le répandre. Pardon? C'est les œuvres de Satan. Donc, si les fruits qui sortent de ma bouche, les paroles, sont souillées, c'est que mon cœur est souillé. Si, c'est évident. Hein? Donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, écoutez simplement ses paroles. Moi, je sais très bien, quand je suis au boulot, je sais ce qu'il y a dans le cœur de certaines personnes. On parle que de foot en permanence, si c'était ça, c'est pas grave. Ou d'autres, c'est les femmes et les propos obscènes en permanence. Ben, je me dis, ils s'alimentent à des sources qui ne sont pas pures. On va, je ne voudrais pas être trop long, mais c'est un sujet tellement dense. Juste maintenant, rapidement, les descriptions bibliques de la langue. Jacques est le spécialiste. Et dans Jacques chapitre 3, verset 2, il va donner des illustrations. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parfait. Mais le terme original est intéressant. C'est l'homme plus que la femme. C'est l'homme de préférence à la femme. En fait, on doit traduire comme ça. Celui qui ne commet pas de fautes au niveau de la langue, en parole, celui qui ne pêche pas en parole, certains kitel notamment traduit, est un mari parfait. Donc c'est l'homme plus que la femme, est un mari parfait. Il paraît que c'est dans le mariage qu'on a de grandes difficultés à contrôler sa langue. Et il va donner quatre images. Je ne vais pas tout lire parce que là, vous les connaissez. Hein, c'est Jacques chapitre 3, verset 3 à 8. De toute façon, c'est enregistré. Mais il dit, Jacques prend quatre images. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même de la langue. C'est un petit organe, 10 cm, 60 grammes. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal, elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être tout entier, allumé au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, il les a effectivement domptés, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un fléau impossible à maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Alors, premier exemple, le mort dans la bouche du cheval. Un mort, vous savez que dans la bouche du cheval, bloque sa langue. Et le cavalier, au gré de son désir, tire sur les rênes, hein, c'est ça, pour le faire aller à gauche ou à droite. Le cheval est le symbole de la puissance dans la Bible, mais il se soumet immédiatement par une simple pression du mort au niveau de ses naseaux, de sa gueule et sur sa langue. Alors, première image. Deuxième image, le gouvernail d'un bateau. La taille du bateau importe peu, mais c'est le gouvernail au gré du pilote qui contrôle la destinée. Soit ce sera la pleine mer ou les hauts fonds, selon que on dirige le gouvernail. Mais il y a quelque chose de particulier dans le gouvernail, c'est que ça ne se voit pas. Le gouvernail est sous la surface, personne n'y pense. Comme votre langue. Elle ne dépasse pas en permanence quand même. Si ça arrive, c'est pas grave. Il y a moyen d'être aidé, quoi, je veux dire. Seigneur, donne-moi d'être sérieux. Donc, troisième image, le petit feu. Pour éteindre un incendie, quelle quantité d'eau il faut? Un verre d'eau, quand c'est une flammèche qui commence. Un petit feu, embraser une grande et détruire pour des millions d'euros de forêt. Quatrième image, une source d'un poison mortel. Et Jacques souligne en disant, mais voyez, considérez cela. Et ce qui met en contraste, c'est la taille, c'est-à-dire que ce sont des petites choses, un gouvernail par rapport à la taille du bateau, la langue, 10 cm, un mort, une étincelle. Ce sont des petites choses, c'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence, comme dit l'autre. Il dit, mais regardez, comme il y a ces petites choses, il y a une disproportion entre ces petites choses et les dégâts qu'elles peuvent provoquer. Dans une vie, dans un foyer, dans une église, dans une communauté. Il dit que de la même source, il ne peut sortir à la fois de l'eau douce et de l'eau saumâtre. C'est impossible, mais pourtant c'est possible. Parce que parfois, nous bénissons Dieu avec notre langue et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il y a une inconséquence totale. Il me reste combien de temps? 7 minutes. Alors, j'en viens maintenant à la guérison, évidemment. On peut guérir de cela. Personne ne peut la contrôler, réduit à ses seules capacités. La première étape pour guérir, parce que c'est un péché qui attriste l'Esprit de Dieu dans notre vie, considérablement, il faut d'abord reconnaître avec honnêteté, j'ai un problème. J'ai un problème avec la langue. Je ne sais pas si notre pasteur a déjà reçu des chrétiens dans son bureau en disant « Je suis un médisant, c'est rare. » C'est rare. Reconnaître que j'ai un problème, le nommer par son nom, c'est un péché. Deuxième étape, comme tout péché, la solution, c'est de confesser notre péché et de recevoir le pardon et la purification par le sang du Seigneur. 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 9, vous connaissez par cœur. Mais si nous vivons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Lorsque le chrétien vient dans la lumière, le sang de Jésus ne purifie jamais dans les ténèbres, jamais, jamais. Il faut venir dans la lumière avec son péché. Confesser son péché. Et la Bible dit, si je suis sincère dans ma repentance, le sang de Jésus-Christ pardonne mon péché, mais va plus loin, me purifie de toute iniquité. C'est-à-dire que Dieu pardonne le péché caractérisé par la médisance, mais il va jusqu'à la racine, au cœur, purifie le cœur, la racine du péché. Il ne s'arrête pas à mi-chemin. Si je suis pardonné, il me pardonne et en même temps il me purifie. Ce qui veut dire que si mon cœur est purifié, le péché doit disparaître de ma vie. Si je demande pardon, mais que le péché ne disparaît pas de ma vie, c'est que je n'ai pas été purifié et donc probablement que je n'ai pas été pardonné. Parce que peut-être, je ne suis pas sincère dans ma démarche. j'ai expérimenté que quand Dieu pardonne, il purifie. Et le péché disparaît de votre vie. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retomber, bien sûr. Si nous péchons, ça arrive, on demande pardon. Mais ce ne sera plus un problème récurrent qui vous dominera. Dieu vous accordera la grâce. La troisième étape consiste à refuser le péché. Mais ça ne suffit pas. Je refuse le péché et je me soumets à Dieu. C'est un principe, c'est très intéressant dans les Écritures. Il y a toujours un côté positif et négatif qui agissent ensemble comme les deux faces d'une même médaille. Ne maudissez pas, bénissez. Ne rends pas coup pour coup, mais bénis. Vous voyez, il y a toujours, on doit se dévêtir pour se revêtir. Si je renonce au péché, mais que je ne remplace pas par un comportement positif, si je ne fais pas quelque chose de positif, il va se créer un vide en moi qui va se remplir par le même problème. Et vous pouvez prendre, vraiment, Paul dit à Timothée, fouille les passions de la jeunesse, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est l'aspect négatif. Fouille les jeunes, les passions de la jeunesse, mais recherche la pureté avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et Paul va toujours mettre en contraste, enfin en balance, un comportement négatif. Je dis non, mais j'agis de manière positive, conduit par le Saint-Esprit. Donc, lorsque je suis tenté, et Dieu permettra que vous tombiez encore, pour que vous soyez désespéré en disant, mais je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Je ne peux pas maîtriser ma langue. Dieu dit, il te laissera aller. Je ne peux pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu cries vers Dieu. Je ne peux pas maîtriser ma langue. Cette langue, je ne peux pas la maîtriser. C'est un tel feu, c'est une telle puissance. Et lorsque je suis tenté, je dis non péché. Parce que la Bible dit, n'offrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité. Mais offrez vos membres comme des instruments de justice. Et donc lorsque je suis tenté, je dis non. Non, tu n'auras pas ma langue péché. Mais je me soumets à Dieu. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à triompher? Dieu nous donne sa grâce. Lorsque je dis non au péché et que j'en appelle à Dieu, je ne médis pas, mais je dis du bien. Et j'en appelle à Dieu parce que je sais qu'il le dit. Il est plus facile de dompter un éléphant que de dompter ta langue. Tu ne peux pas la dompter, réduite à tes seules capacités. Tu as besoin de la soumettre à un pouvoir plus grand. C'est la puissance du Saint-Esprit. Lui seul est capable de contrôler ta langue. C'est-à-dire, mais tu collabores avec Dieu. Je dis non au péché, mais je m'ouvre à l'action de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu me donne la capacité de contrôler ma langue. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Je m'ouvre à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? J'aime cette définition, elle n'est pas de moi, mais je la trouve magnifique. La miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu pardonne ton péché. La grâce de Dieu, c'est la capacité de Dieu qui vient en secours de mon incapacité pour me permettre d'être et de faire ce que je ne peux pas être, ce que je ne peux pas faire, réduit à mes seules capacités. La grâce de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui vient à ton secours pour te permettre de triompher du péché. La grâce de Dieu te permet de dominer le péché par la puissance de Dieu. Mais j'ai ma part. J'ai fait de la mécanique à une époque. Vous avez tous une direction assistée. Les Lada ont été, n'existent plus. Hein. Vous avez tous une direction assistée? Comment ça fonctionne? Parce qu'on collabore avec Dieu. Je vais schématiser. Il y a ce qu'on appelle un boîtier direction. C'est raccordé à une pompe à huile très puissante avec une courroie au moteur. Dès que vous mettez le moteur en route, la pompe à huile exerce une pression énorme sur le boîtier de direction. Énorme. Ça, c'est une certitude. Mais vos roues ne bougeront pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez le petit coup de volant. Et quand vous donnez le petit coup de volant, vous libérez une soupape qui met en communication la puissance qu'il y a là avec les roues. Donc, si vous voulez, la puissance de Dieu est disponible. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. mais j'ai ma part. Ma part, c'est exercer ma volonté. C'est dire non. Non, je ne te soumettrai pas cette langue, péché. Mais je me soumets à toi, ô Dieu. Ô cher Saint-Esprit, aide-moi à contrôler. Regarde, je sens, je vais médire. S'il faut, prenez vos jambes à votre cou. Fouillez. Reprenez avec amour et fermeté. Je ne veux pas entendre. Vous allez voir. Non, non, non. Et juste, cette fois je conclue vraiment. Je développerai peut-être une autre fois. Et c'est magnifique. Pourquoi Dieu nous a donné une langue? Et vous verrez. Dieu nous a donné une langue. Bien sûr, fonction, goûter les animaux, la parole. Dieu nous a donné une langue. La fonction première de la langue, c'est pour le louer et le glorifier. Et toutes les fois dans le Nouveau Testament, je n'ai pas le temps de vous le montrer, il n'y a pas une seule exception. Toutes les fois où une personne dans le Nouveau Testament est remplie du Saint-Esprit, la première expression est toujours verbale pour le positif.